Et merci beaucoup. Je voudrais bien remercier encore Michel Criou et Christian Desbloch de leur invitation pour venir ici. C'est vraiment un honneur et aussi d'avoir l'expérience de la neige. Ce n'est pas l'hiver qui nous inquiète, c'est surtout la neige. Bon, alors, dès que j'ai su que j'allais faire une présentation sur un panel de l'économie mexicaine, et après l'ALENA, alors j'ai décidé de changer un petit peu mon exposé et de les focuser sur la réforme énergétique au Mexique. Et un peu en se demandant, est-ce que la réforme énergétique, vous savez que c'est une complète libéralisation du secteur énergétique au Mexique maintenant.
Et, un petit peu le micro.
Ça marche pas ?
Non, je pense que tu étais un peu loin du micro.
Ça va ? Bon. C'est une libéralisation et donc on peut toujours dire bon alors c'est le triomphe de l'ALENA, finalement c'est le triomphe d'une carte néolibérale qui s'est imposée ou qui a été décidée par les Mexicains depuis l'entrée de l'ALENA. Et finalement vous savez très bien que lorsque les Mexicains négociaient l'ALENA, il a dit non, on va pas ouvrir le secteur pétrolier et parce que c'est un secteur stratégique de l'État pour la gestion économique et pour la gestion sociale. Et maintenant, c'est complètement libéralisé. Donc, on peut se demander justement si c'est l'agenda néolibéral qui l'a importé finalement dans la vision, disons, de l'État dirigiste, de la gestion stratégique des ressources pour les Mexicains. Ou par contre, si l'ouverture, c'est une crise de la stratégie de gestion des ressources, aussi de la société du Mexique. Voilà, c'est ça que je vais poser sur la table, mettre à la table en discussion. Bon, alors, je fais un résumé. Donc, je considère les monopoles étatiques d'État et sur les ressources naturelles du Mexique comme un secteur stratégique, comme je dis, de la gestion publique des ressources, mais aussi de la gestion sociale. Et c'est pour ça que j'utilise le mot ou le concept de gouvernementalité. C'est un concept de Foucault, Michel Foucault, parce que je considère que cette gestion, ça fait partie de toute une technologie des directions de conduite. Mais dans le cas mexicain, ce sont une technologie de direction des masses, des mobilisations des masses et des démobilisations des masses par l'État et des mobilisations des ressources et aussi gérées par l'État pour obtenir des effets sociaux. Voilà. Et aussi ancrées dans des savoirs de tout type, des savoirs ou des discours juridiques, bien sûr des discours historiques, mais aussi des discours scientifiques dans le cas justement de l'économie. C'est pour ça que je parle plutôt d'une gouvernementalité, dans ce cas une gouvernementalité d'État ou des raisons d'État par rapport à une gouvernementalité néolibérale, c'est-à-dire une gouvernementalité gérée par les marchés. Voilà, c'est ça que je fais l'opposition. Bon, alors, et je me pose la question, est-ce que la libéralisation du secteur minier au Mexique, ou pétrolier plutôt, est-ce que c'est une crise des gouvernementalités d'État ou c'est encore le passage vers une gouvernementalité des marchés pour sauver l'État? Voilà. Donc, alors. Et il faut un peu déconstruire, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais seulement mettre des idées. Et pour déconstruire ce que signifiaient les monopoles d'État, je crois qu'il y a trois variables. Deux genres de discours, deux dispositifs. Les discours, c'est évidemment les discours de souveraineté. Le Mexique a toujours ancré les contrôles, les monopoles des ressources comme un exemple de souveraineté. Alors la souveraineté, on sait très bien qu'il y a deux acceptions de souveraineté. Il y a la souveraineté du discours juridique, de la représentation politique. Là, le Mexique est très faible. On a eu depuis longtemps, depuis l'indépendance, mais le Mexique lutte encore sur ce côté de la souveraineté comme représentation des citoyens. Mais il y a une autre interprétation de la solidarité, on le sait très bien, que c'est le contrôle de l'État des ressources et de la population et la défense des intérêts d'État vis-à-vis l'étranger. Voilà, ça, c'est le discours que le Mexique qui a dominé et la construction de l'État mexicain depuis le 19e siècle, mais surtout au 20e siècle. C'est-à-dire, l'État devait être fort au-dessus de la société et au-dessus des intérêts et locaux et pour bien gérer la société, les ressources et donc le pays. Donc ce vingtaine est très important parce que c'était lié à la défense des intérêts nationaux. La nation, le nationalisme c'était toujours une défense vis-à-vis de l'étranger parce que l'étranger, il fallait toujours se méfier de l'étranger. Il fallait toujours se méfier des intérêts, surtout des puissances. Dans ce cas, on le sait très bien, au 19e siècle, de l'Espagne, de l'Angleterre, de la France, mais aussi des États-Unis, parce qu'on a perdu la moitié du territoire, vous savez très bien. Mais aussi pendant la Révolution mexicaine, parce que l'État aussi, c'est un État qui émergeait, aussi, c'est renforcé, c'était la stratégie des raisons d'État, c'était renforcée après la Révolution mexicaine. Et il fallait se méfier des intérêts des entreprises étrangères. Donc l'État, c'était un protecteur des intérêts nationaux vis-à-vis des intérêts internationaux où il fallait se méfier. Ce n'était pas nécessairement des ennemis, il fallait se méfier. Mais aussi, le nationalisme, c'était l'organisation, la construction de la nation. Et la nation, c'est quoi? Bon, ce n'est pas tous les Mexicains, évidemment. C'est la nation québécoise, ce n'est pas tous les Québécois. La nation mexicaine, c'était ces groupes sociaux qui étaient organisés par l'État et reconnus par l'État. Et dans les cas mexicains, ce n'est pas le cas québécois ou le cas canadien ou le cas américain, ce n'était pas des citoyens. Nous, on n'est pas encore des citoyens. On commence à être des citoyens. Et on était des corps sociaux. On était soit des paysans, soit des ouvriers, soit des classes moyennes organisées avec des aspirations politiques, soit des entrepreneurs, soit des politiciens, soit des ennemis. Et les ennemis étaient toujours dehors. À droite et à gauche. C'était une oligarchie rurale qui a perdu pendant la Révolution, mais aussi c'était les révoltés. C'est les masses qui n'étaient pas organisées par les partis hégémoniques, à l'époque où c'était les PRI, et qui se révoltaient soit par des raisons religieuses, la cristiana, ou soit par des raisons sociales, la guérilla qu'on la connaît depuis toujours. Et donc voilà, vous voyez, la défense de la nation, c'était vis-à-vis des intérêts étrangers, mais aussi pour protéger la nation que l'État construit et qui reconnaît comme sa propre nation. Dans la mesure où il demeure organisé, apprivoisé, gouvernementalisé par un discours et par une stratégie d'échange des privilèges, de clientélisme, où la gestion des ressources économiques et surtout du pétrole était très importante. Voilà, j'ai plus de temps pour développer là-dessus, mais c'est pour dire là les deux narratifs. Et après, les dispositifs politiques, les dispositifs de mobilisation des masses, c'est très important parce que, rappelez-vous, que la nationalisation du pétrole, c'était le produit d'un conflit laboral où les ouvriers voulaient une augmentation des salaires vis-à-vis des compagnies étrangères, et parce que les compagnies étrangères ont renoncé à reconnaître cette augmentation laborale, c'est l'État qui est intervenu et qui a nationalisé les compagnies pour protéger les ouvriers. Et la manière que l'État confrontait les compagnies, c'est avec la mobilisation, c'est la stratégie de politique des masses, et la mobilisation ouvrière contre les compagnies qui étaient des ennemis. Et après, une fois que les ouvriers ont devenu radicalisés, parce qu'on le sait, l'État a demandé à l'armée d'entrer dans les installations pour retirer les ouvriers. Voilà, c'est une technologie de mobilisation et de démobilisation qui est à la base de ces dispositifs de politique de masse. Et les derniers dispositifs, c'est un discours scientifique, ou que ça a l'air scientifique, ou que ça reconnaît comme scientifique, c'est le discours économique, d'une économie politique critique. Du libéralisme, c'était une économie politique qui voulait créer une industrie locale, une industrie nationale, afin de faire la concurrence vis-à-vis les grandes puissances et devenir un pays industrialisé à la fin. Voilà, je laisse parce que j'ai plus de temps. Alors, Là, et je peux seulement montrer. Combien de temps j'ai encore?
13, grosso modo, 8 minutes.
8 minutes, voilà. C'est très bien. Alors, je vais vous montrer ces deux graphes pour montrer comment ça a évolué, c'est les monopoles et de la gestion des ressources. Et il y a deux étapes, grosso modo. Et la première étape, c'est un développement à l'intérieur, pas d'exportation, ce que j'appelle inward looking. Et après, c'est la période des exportations. Bon, je compare les deux graphes, vous voyez. Et lorsque le Mexique avait un monopole, surtout pour développer un marché intérieur, vous voyez que les prix, il n'y avait pas d'avantage de faire l'exportation. Vous voyez très bien l'avérage, la moyenne des prix était 15 dollars réels. Mais après, au début des années 70, on a la période de pétrole cher, et j'ai fait la moyenne, arithmétique seulement, pas statistique, et c'est 43, je vois, non, quelque chose comme ça. Bon, alors c'est trois fois plus le prix réel de pétrole. Donc, c'est évident. Les conditions internationales n'encourageaient pas à faire l'exportation, mais une fois qu'il y a eu les conditions pour exporter, le Mexique l'a fait. Mais, en même temps, le Mexique l'a fait parce qu'il a eu une crise financière qui faisait nécessaire d'augmenter les ressources, les recettes d'État. Donc, les Mexicains ont été chanceux parce que c'est à l'époque où l'État entrait en crise que le pétrole a commencé à augmenter. Et bon, triomphe des dispositifs de l'État protecteur, triomphe des dispositifs de l'État monopolisateur. Mais le problème, c'est la gestion du premier boom pétrolier a été un échec. C'était du gâchis. Je ne vais pas y revenir, tout le monde le sait. Non, et on est tombé dans une crise d'endettement et le Mexique a reçu plus de revenus par dette étrangère que par des ressources pétrolières. Il y a eu des problèmes de corruption, et problèmes de décision seulement pour une personne. Enfin, bref, ça a été un échec. Et donc, on a entré en crise. Et en 86, vous voyez très bien, les pétroles ils sont vraiment tombés. Et là, je crois qu'on a une première crise de l'État souverain, de l'État protecteur, de l'État dirigiste, parce que l'État a hypothéqué, si on peut dire comme ça, les ressources au futur, et les recettes ont été qui étaient de moins en moins qui étaient à la chute, et les peu de recettes nettes qu'il y avait, c'était pour payer une dette. Là, c'est la période où le Mexique a payé. Il y a eu un surplus à l'extérieur d'argent. Bon, alors, cette crise-là ouvre le changement des politiques économiques au Mexique vers un modèle plutôt néolibéral, c'est-à-dire pro-marché. Ça commence avec l'entrée des GATT, mais ça commence aussi par toute une libéralisation unilatéral du pays. Et de 86 jusqu'à 94, on a une série de réformes qui essayent d'accommoder l'État à une nouvelle situation, mais on a l'ALENA. Et l'ALENA, à mon avis, c'est une manière d'introduire un changement de la stratégie d'État vers les marchés, mais c'est une réforme d'État. C'est une réforme d'État parce que les réformes avant, c'était des réformes unilatérales qui pourraient être repoussées par les cycles politiques. Mais avec l'ALENA, et ça c'est l'importance pour le Mexique, plutôt que des gains économiques, c'est d'introduire une agenda ou une stratégie de gouvernementalité néolibérale d'État par l'État, en signant un accord avec les États-Unis, avec le Canada, pour les faire irréversibles ou pour augmenter les coûts de changer la stratégie. Mais ça provoque une crise. Ça provoque une crise dans les discours nationalistes. Parce que c'est où l'ennemi? Mais ce n'était pas l'ennemi. Il ne fallait pas se méfier des États-Unis. Il ne fallait pas se méfier des compagnies internationales. Ben non, ils ont maintenant des alliés. Alors, une crise de discours nationaliste, mais aussi une crise du discours de la nation à l'intérieur. Parce que, rappelez-vous, hier, on a parlé. il y a eu des soulèvements des zapatistas. Et les zapatistas, à mon avis, ça montre, indépendamment de ce que si vous préférez, si vous les aimez, si vous les détestez, je sais pas, mais ça montre que l'État ne contrôle plus la société. La société que l'État a créée est reconnue. La société qui était organisée, attaquée, vous êtes des paysans, vous voulez une réforme agraire. Alors je vous donne, et c'est vous. Restez toujours figés dans votre petite terre et ne donnez pas d'enrées alimentaires, très bon marché pour la ville. Ben non, c'est plus. Les zapatistes se révoltent. Il y a une désobéissance, disons, sociale, qui, à mon avis, depuis lors, dès lors, commence à remonter jusqu'à la crise de souveraineté locale de l'État, parce qu'il y a des territoires que l'État ne contrôle plus à cause de la drogue, à cause de la privatisation de la sécurité, à cause des milices. La société a commencé à se protéger elle-même parce que l'État est incapable de la protéger. Alors, à mon avis, depuis lors jusqu'à maintenant, on voit une véritable crise de souveraineté, une véritable crise de l'État créateur de la société, organisateur de la société, mais pas nécessairement parce que le néoréalisme est en train de l'emporter, mais c'est parce que l'État est incapable de tenir son stratégie de gouvernementalisation et de la suprématie de l'État, de la raison d'État pendant la fin du XXe siècle. Bon, ça s'explique, et je sais que je suis seulement une minute, ou 30 secondes. Et alors là, c'est le contexte, excusez-moi d'être très long, mais c'est le contexte de la réforme. Je vais passer tout de suite, très rapidement, on peut discuter après. On voit que les derniers recours qu'avait l'État, c'était les recettes pétrolières. Et c'était des recettes qui avaient pour payer une dette, qu'on paye encore la dette, mais aussi des ressources pour encore organiser cette société, pour faire des distributions, surtout pendant l'ouverture des marchés, pour les groupes qui étaient les plus vulnérables. Vous connaissez tous ces programmes de transfert des ressources, mais c'est des ressources du pétrole. Et donc, la dernière crise vient lorsque l'État monopoliste est incapable de voir les investissements à gauche, à droite, ce sont les investissements qui augmentent de l'État pour accroître les ressources. Ici, j'ai mesuré les ressources pas par baril, mais par année de production. Parce que comme ça, je peux convertir les gaz et le pétrole dans l'année de production. Vous voyez, dans la période du boom pétrolier, l'État était capable d'accroître la richesse de la nation, non ? À un prix très haut, parce qu'on a endetté les pays, et avec l'inflation et l'échec de l'État des registres. C'est un échec, à mon avis. Et après, il essaie d'accroître de nouveau les ressources, parce que cette période des prix hauts, donc ça vaut la peine d'optimiser la rente pétrolière, les rentes. Oui, alors, mais les pays a échoué, les compagnies ont échoué, je vois toutes les importations, et en même temps, on a pas mal de ressources. Ici, je montre très rapidement les pays, le Mexique maintenant est le cinquième pays rangé par ses ressources potentielles des gaz de schiste, aussi du pétrole de schiste. Mais ici, vous voyez, il y a plein de réserves chez les réserves potentielles, les réserves prospectives, mais plus de ressources que l'État a investi, moins de réserves, parce que ça coûte cher. Et donc, avec toutes ces choses dont je vous ai parlé, et avec les coûts d'opportunité qui remontent pour investir dans le pétrole et la souveraineté de l'État est en train de s'écrouler, l'État décide de libéraliser finalement le secteur pétrolier. Mais il n'y a pas eu de pression des États-Unis. Il n'y a pas eu non plus de pression des compagnies américaines parce qu'il y a pas mal de pétrole aux États-Unis maintenant et aussi au Canada. À mon avis, c'est plutôt des derniers moments de l'écroulement d'une gouvernementalité, d'une stratégie de la gestion sociale, économique et des ressources naturelles du pays à travers l'État, et maintenant suivre finalement une période de gestion par les marchés. Mais on est dans une période très similaire à l'ALENA. On a survendu la réforme. On part des merveilles de la réforme. Mais je suis sûr que dans 10 ans, ou 5 ans, on va faire un panel pour voir ce qui s'est passé avec la libéralisation des ressources. Merci.